Bonjour à tous. Avant de commencer, qui était là hier soir? Juste pour avoir... Donc il y a quand même 4, 5. Oui, on est quand même 5. Non, non. Oui, non, mais bien sûr. Mais donc, hier soir, oui, c'est juste pour savoir. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un résumé de ce qui s'est dit hier, pour alors après vraiment aller dans le détail des politiques que nous pourrions mettre en œuvre, en particulier au niveau des entreprises. Alors voilà, donc nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Patrick Vivray, que vous connaissez tous probablement entre-temps, si ce n'est par ses écrits ou par le petit article que Roland et moi avons publié dans La Libre. Mais en quelques mots, Patrick est philosophe. Il réfléchit aux questions dont il va nous parler aujourd'hui depuis pratiquement 40 ans. Je dirais un des points marquants de sa réflexion provient de sa nomination par Rocard, comme chargé de mission d'enquêter sur des manières alternatives de considérer la richesse. Ce qui a mené par après, sous le gouvernement Jospin, à un rapport qui s'est intitulé « Reconsidérer la richesse », qui est publié et qui va être republié dans les mois ou dans les semaines qui viennent. Alors, je ne vais pas vous citer toutes les activités qu'a Patrick, mais il nous en parlera mieux que moi. Je citerai entre autres toutes ces initiatives au niveau des monnaies complémentaires que nous avons déjà investiguées pour ceux qui étaient là avec Bernard Liétard, qu'il connaît bien. Ses participations à tous des congrès tels que Porto Alegre, les dialogues en humanité qu'il organise depuis quelques années, et bien sûr la publication de ses livres tels que le dernier en date qui est « Pourquoi ça ne va pas plus mal ?» et puis un nouveau livre qui va paraître bientôt, et je ne vais plus me tromper maintenant quant au titre « Des bonnes raisons de la fin d'un monde », pas du monde.
Du bon usage.
Oui, mais c'est dramatique. C'est trop. Donc du bon usage de la fin d'un monde. Et j'ai beaucoup aimé, hier Patrick me disait qu'il opérait aujourd'hui comme consultant en imaginaire. Bon, ça, je trouve ça génial. Donc voilà, je vous présente un consultant en imaginaire et je lui laisse la parole. Merci Patrick.
Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de faire un bref résumé des éléments de cadrage général sur lesquels j'étais intervenu hier soir pour venir travailler plus précisément sur la partie économique du propos et puis vraiment d'engager un dialogue avec vous parce que c'est évidemment des questions sur lesquelles votre propre expérience est très supérieure à la mienne et sur lesquelles ça m'intéresse autant d'échanger et d'apprendre que de vous proposer un certain nombre d'hypothèses. Moi, ce que je peux faire à partir à la fois de mes travaux et puis de l'insertion dans un certain nombre de dynamiques sociales, démocratiques, d'expérimentations telles que par exemple l'économie sociale et solidaire, les monnaies complémentaires, c'est que tout ce qu'on est amené à faire et à penser doit vraiment être situé dans la perspective historique des grandes mutations et des grands bouleversements dans lesquels nous sommes et dont ce qu'on appelle de façon réductrice la crise n'est que la loupe grossissante. Alors, moi, j'avais identifié ça autour de trois grandes vagues qui convergent vers la question du retour de ce qu'on pourrait appeler la question de l'être comme étant une question publique et s'exprimant aussi bien dans le champ politique que social qu'économique. Et ce retour de la question de l'être, il vient d'une part du fait que dans ce qui se passe actuellement, dans l'insoutenabilité de nos modèles d'organisation, de croissance, de développement, on a un couple qui est caractérisé par de la démesure d'une part et du mal-être d'autre part. Donc ça, c'est ce que j'appelle le premier grand rendez-vous historique, le plus récent, mais qui correspond lui-même non pas au dernier mois ou à la dernière année, mais qui correspond aux 30 dernières années, c'est-à-dire un emballement des logiques de démesure dans nos systèmes, des mesures sur le plan de nos rapports à la nature qui est à l'origine des grands défis écologiques et notamment d'un côté la question climatique, de l'autre côté la question de la biodiversité, des mesures dans le découplage entre économie financière et économie réelle, et ça je reprends souvent un graphique qu'on doit à Bernard Liétard, que vous avez entendu ici et qui est assez spectaculaire et qui mettait en rapport le lien entre dans les flux financiers quotidiens avant la faillite de Lehman Brothers, entre la part, je vais le retrouver tout de suite, voilà, c'était ça, ce graphique assez spectaculaire. Sur les 3200 milliards de dollars qui s'échangeaient quotidiennement sur les marchés financiers à l'époque où ce graphique a été fait, moins de 3%, 2,7%, donc c'est vraiment l'épaisseur du trait, il faut avoir l'œil bien exercé. C'est la partie verte en bas, correspondait à des biens et des services réels. Donc ça, c'est aussi un problème de démesure. Ce que les Grecs appelaient l'hubris, et la démesure, vous la trouvez aussi sur le plan social, et dans ce décalage qui est bien exprimé par un autre graphique, qui est, quand on calcule l'indice de santé sociale, qui est un indice qui est calculé d'abord depuis 1959, puis qui a été sophistiqué dans les années 70 par le Fordham Institute, qui est maintenant reconnu comme étant un indicateur très pertinent à l'échelle internationale, et qu'on compare cet indice de santé sociale à la richesse exprimée classiquement par le produit intérieur brut, vous voyez l'effet de découplage assez saisissant qu'on voit apparaître, en particulier dans des pays comme les États-Unis, qui, notamment depuis l'élection de Ronald Reagan en 1980, ont joué à fond la carte des politiques de dérégulation. Donc quand vous avez des inégalités à l'échelle planétaire telles que la fortune personnelle de 225 personnes est égale au revenu de 2,5 milliards d'êtres humains, chiffre donné par le programme des Nations Unies pour le développement, ça aussi c'est de la démesure. Et dans ce premier grand temps historique, la démesure, elle est elle-même liée à du mal-être, à du mal de vivre, à de la maltraitance. Je vais reprendre rapidement, là aussi, les chiffres des Nations Unies qui mettaient en évidence dans un rapport de 1998, un rapport mondial sur le développement humain, que les sommes qu'il était nécessaire de mobiliser pour intervenir sur les enjeux les plus radicaux de l'humanité, que sont bien sûr la faim, le non-accès à l'eau potable, le non-accès aux soins de base, les problèmes de base du logement, ne représentaient que 10 fois les sommes qui étaient mobilisées sur l'économie des stupéfiants, et en tout cas dans la partie visible de l'économie des stupéfiants, puisque à l'époque, le programme des Nations Unies pour le développement avait estimé qu'il fallait 40 milliards de dollars supplémentaires en 1998 pour réaliser des programmes fondamentaux sur la faim, l'eau potable, les soins de base. Et au moment même où ces 40 milliards de dollars, la communauté internationale s'avérait incapable de les trouver, les dépenses officielles, enfin en tout cas visibles, liées à l'économie des stupéfiants, représentaient déjà 400 milliards de dollars. Les dépenses d'armement à l'époque, c'était 20 fois, c'était 800 milliards de dollars. Et un autre chiffre qui était intéressant, c'était les dépenses liées à la publicité, et c'était aussi 10 fois, c'était de l'ordre de 400 milliards de dollars annuels. Et quand on analyse ces trois grands budgets, on voit bien que derrière la démesure, il y a au fond une gestion qui est évidemment une gestion inconsciente, une gestion empirique, mais des questions du mal de vivre, du mal-être et de la maltraitance. Alors, dans l'économie des stupéfiants, c'est là que c'est le plus évident, parce que quand il y a une économie de la drogue et de la drogue dure aussi massive, c'est bien parce que il y a un nombre de gens importants, et notamment du côté occidental, qui va pas bien. Sauf cas de figure limité, on se drogue pas par pure curiosité intellectuelle, ou si on le fait par curiosité intellectuelle, en général, on ne poursuit pas durablement et certainement pas avec des drogues dures. Quand on prenait les 800 milliards du côté des dépenses militaires, en termes émotionnels, ce qui se joue essentiellement, c'est moins de la protection, hélas, que le rapport entre de la logique de peur, de la logique de domination, de la logique de maltraitance. Et quand on prenait les dépenses publicitaires, ce qui est frappant dans les dépenses publicitaires, c'est d'une part que leur objet n'est pas d'aller appuyer les grandes campagnes d'information dont on aurait pour le coup besoin dans justement la lutte contre la faim, pour l'eau potable, etc., et en appui aux organisations humanitaires internationales ou aux organisations sur place qui défendent ces projets. L'essentiel de ce qu'étaient ces 400 milliards de dollars à l'époque et qui est à peu près de l'ordre du double aujourd'hui, elle tourne en rond dans des sociétés dites de consommation, mais qui sont aussi, pour reprendre un lapsus révélateur d'une personne dans un colloque récent, des sociétés de consolation. C'est-à-dire fondamentalement, le cœur des messages publicitaires sont des promesses dans l'ordre de l'être pour mieux faire passer un message dans l'ordre de la consommation de l'avoir. C'est-à-dire de quoi nous parle l'essentiel des publicités, le cœur de l'image, le cœur des messages, etc. C'est du bonheur, de la beauté, de l'amour, de l'amitié, voire de la sérénité et de l'authenticité. C'est-à-dire des demandes fondamentales des êtres humains qui sont sur le triple rapport majeur du rapport à la nature, la beauté, du rapport à autrui, l'amour, l'amitié, la paix, etc., du rapport à soi, l'authenticité, la sérénité. Et ces promesses dans l'ordre de l'être sont d'autant plus fondamentales que on vit justement dans des sociétés où le rapport à autrui est beaucoup plus marqué par la compétition et la rivalité que par la paix et l'amitié, que le rapport à la nature est beaucoup marqué par de la destruction de l'environnement, et que le rapport à soi est très faible, et que l'absence de vie intérieure, de vie spirituelle, crée aussi une demande correspondant à ce vide, et tout se passe comme si l'essentiel du message publicitaire était de nous faire vivre par procuration cette vie dans l'ordre de l'être que la société de consommation ne nous permet pas de vivre par ailleurs, et avec à ce moment-là un double phénomène pervers qui est que du point de vue des personnes, notamment dans nos propres sociétés, on a là aussi un phénomène un peu comparable à la toxicomanie, c'est-à-dire que la prise de dose correspondante débouche nécessairement sur de la déception et de la frustration, mais comme le message est dans l'ordre du toujours plus, si vous n'êtes pas satisfait, c'est parce que vous n'avez pas pris la dose satisfaisante, on a à ce moment-là une logique de toujours plus et un phénomène comparable à l'addiction, et ce toujours plus à un pôle, ce toujours plus qui vient combler ce qu'on pourrait appeler de la misère matérielle, affective, spirituelle, éthique, dans un ordre, va effectivement produire à l'autre bout de la chaîne de la rareté artificielle, voire de la misère matérielle. C'est-à-dire que les ressources dont dispose l'humanité pour traiter la question de la faim, de l'eau potable, les soins de base, etc., seraient des ressources mobilisables, y compris sur le plan monétaire, mais à partir du moment où on a cette addiction et cette logique de toujours plus à un autre pôle, ben, ça se traduit aussi par de la situation de rareté artificielle, et on peut dire qu'il y a un rapport systémique entre les deux misères, quoi, misère matérielle et misère spirituelle, si on entend le mot spirituel dans son sens large et dans son sens laïque. Donc, dans cette première grande vague, on peut dire qu'il y a un couple qui est formé par la démesure et le mal-être, et que par rapport à ce couple, c'était le thème de la soirée d'hier, une réponse positive est à chercher du côté d'un autre couple qui allie la question de la simplicité, simplicité, frugalité, sobriété, peu importe les termes, mais on voit bien en tout cas de sortir de la logique de démesure, de retrouver des points d'équilibre et de suffisance, mais que cette acceptation des limites n'est possible que si on travaille par ailleurs sur la question du mal-être. Parce que si on n'intervient que sur les limites sans intervenir sur le mal-être et le mal de vivre, là, c'est l'équivalent d'une cure de sevrage proposée à un toxicomane. S'il n'a pas une espérance positive au terme de sa cure, ben, il préfère encore garder sa toxicomanie. Donc, à ce stade-là, j'en dis pas tout plus sur ce point, puis on y reviendra quand je zoomerai sur la partie plus économique, mais dans un premier temps, un premier grand rendez-vous, alors évidemment tout ça c'est des éléments d'hypothèse discutables et on aura l'occasion d'en parler, mais disons que si on prend au sérieux ce corps d'hypothèse, on voit bien que la nature des réponses à apporter à cette fameuse crise, non seulement d'abord elles doivent être systémiques, c'est-à-dire on ne peut pas traiter la crise écologique de façon séparée de la crise financière ou de la crise sociale ou même de la crise géopolitique. Et j'ajoute d'ailleurs que dans l'autre grand effondrement, celui d'il y a 20 ans, l'effondrement de l'Empire soviétique, c'est aussi de la démesure qui est en cause, cette fois de la démesure dans les rapports au pouvoir. Donc si on veut prendre au sérieux le caractère systémique de cette crise, il faut y répondre sur le double terrain de la mesure comme acceptation des limites et du travail sur la dimension du mieux-être, du mieux-vivre. Et à ce moment-là, les enjeux traditionnellement considérés comme étant purement personnels et privés du bien-être, et en entendant fortement le mot « être », deviennent des enjeux sociétaux, des enjeux politiques, la question des politiques publiques de bien-être, des enjeux économiques, quelle réorientation, quelle reconversion de nos économies dans des perspectives à la fois de développement humain soutenable et de mieux-être, des enjeux spirituels, les grands rendez-vous des traditions spirituelles et religieuses par rapport à ces questions-là deviennent décisives, et ça constitue un premier grand rendez-vous, un premier horizon. Et puis ensuite, j'ai ajouté un deuxième grand rendez-vous qui était lié, et là on parle en termes de siècles et non plus en termes de décennies, qui était celui de la fin des temps modernes au sens de la modernité occidentale. C'est-à-dire que des éléments structurants de la modernité, je les avais caractérisés en reprenant une phrase de Max Weber dans Éthique protestante et Esprit du capitalisme, qui était l'entrée dans la modernité en Occident s'est fait sous le signe d'un passage de l'économie du salut au salut par l'économie. Et mon hypothèse, c'est que nous vivons la fin du cycle historique du salut par l'économie. Alors, comme c'est le point sur lequel je vais ensuite revenir et zoomer plus particulièrement, je ne l'approfondis pas à ce stade, mais je vous propose simplement de retenir comme hypothèse de ce deuxième grand rendez-vous que si cette hypothèse a quelques forces, à ce moment-là, elle nous renvoie à un immense défi qui est de savoir comment nous sortons par le haut de cette ère historique des temps modernes. Parce que la sortie par le bas, parle de la régression prémoderne, nous la connaissons bien. Elle peut s'appeler le fondamentalisme, les guerres identitaires. Donc l'enjeu, c'est comment on en sort par le haut. Et en sortir par le haut, ça veut dire travailler sur ce qu'il y a de meilleur dans la modernité, et notamment tout ce qui est lié aux formes d'émancipation, qu'elle s'exprime à travers la liberté de conscience, qu'elle s'exprime à travers les droits humains, qu'elle s'exprime à travers le doute méthodologique, et de garder les éléments fondamentaux de la modernité sous sa forme occidentale, mais en étant lucide par ailleurs sur la part de la part d'ombre à côté de la part de lumière, et être capable de reconnaître que cette modernité a été aussi marquée par une logique de chosification, chosification dans les rapports à la nature, aux vivants et aux humains eux-mêmes, dont la face la plus terrible s'est d'ailleurs exprimée au moment de la Shoah et de la solution finale. Et on ne peut rentrer dans un dialogue exigeant dont on a besoin à l'échelle mondiale avec les sociétés de tradition qui, historiquement et géographiquement, restent les plus importantes, que si, en faisant ce travail de tri sélectif sur la modernité occidentale, on permet aussi que ce même travail intérieur soit possible du côté des sociétés de tradition, à la fois en reconnaissant leur part la plus positive sur le triptyque d'un rapport fort préservé à la nature, d'un rapport fort dans le lien social et d'un rapport fort dans les questions du sens, là où souvent nous avons perdu le terrain de cet essentiel. Mais derrière ce meilleur des sociétés de tradition, le pire vient aussi se loger, parce que ce même rapport fort à la nature, au sens et au lien, il peut parfaitement s'exprimer sous les formes de la dépendance et de l'exclusion. Une pure soumission à la nature qui va aller éventuellement jusqu'à refuser, y compris des progrès médicaux, une pure soumission au lien social qui fait qu'à ce moment-là, le lien devient un contrôle social et que hors de la communauté, point de salut, et un rapport au sens qui peut être un rapport parfaitement identitaire et excluant pour les autres sens. Donc au terme de la deuxième grande vague, nous retrouvons cette même question de l'être à travers les enjeux d'un dialogue de civilisation qui soit à la fois ouvert et exigeant et qui constitue l'alternative réelle aux logiques qui nous pendent au nez de chocs de civilisation et de guerres de civilisation. Parce qu'évidemment, plus les effets systémiques des crises écologiques, sociales, financières, etc., produisent des états de bouleversement, plus le risque que des logiques régressives se mettent en place et que dans ces logiques régressives, des régressions identitaires apparaissent de plus en plus. Et l'une des grandes affaires de l'humanité, c'est effectivement d'être capable d'éviter ces logiques de guerre et de construire un travail sur l'universel de l'humanité qui ne soit pas synonyme de l'imposition de la vision de l'universel par le modèle occidental. Il n'y a de la construction possible d'un universel de l'humanité qu'à partir d'une mosaïque des civilisations et des cultures, et de cette exigence de chacune d'entre elles, de ce travail sur le rapport entre leur part d'ombre et leur part de lumière. Et c'est seulement dans cette direction qu'on peut aller vers une humanité qui ne sera pas à la veille d'une troisième ou d'une quatrième guerre mondiale dont les aspects identitaires seront déterminants, mais une humanité qui travaille progressivement à la question clé de son auto-gouvernance. Et ça, ça fait le lien avec la troisième grande vague et le rendez-vous qui, à ce moment-là, n'est pas simplement séculaire. Le premier était décennal, le second était séculaire. Le troisième, ça n'est pas excessif de dire qu'il est millénaire et plurimillénaire, Parce que le troisième rendez-vous, il va nous renvoyer très radicalement à cette question fondamentale, comment devenir pour de bon des homo sapiens sapiens, alors que nous sommes beaucoup plus, comme le dit Edgar Morin, des homo sapiens démins. Et que ce problème du décalage entre la force de notre intelligence mentale et la pauvreté de notre intelligence émotionnelle est aujourd'hui la question centrale qui fait que l'humanité risque la sortie de route. C'est-à-dire, quand nous regardons tous les défis auxquels nous sommes confrontés, toutes les mutations que nous avons à gérer, nous voyons, alors ça aussi c'est une hypothèse qui demande à être travaillée, discutée, sur laquelle on peut revenir, mais que je vous livre comme ça, brute de décoffrage, que la plupart des défis auxquels l'humanité est confrontée et sur lesquels, y compris, elle risque son avenir comme espèce, sont liés à la difficulté qu'a l'humanité à vivre sa propre condition. Et que dans ce rapport à sa propre condition, le rapport entre ce que les spiritualités orientales appellent les trois intelligences, intelligence du corps, intelligence du cœur, intelligence de l'esprit, vient du fait justement qu'il n'y a pas de progression du côté de l'intelligence du corps et du cœur, de l'intelligence sensible au sens large, au même niveau que l'intelligence mentale. Arthur Koestler avait très bien exprimé ça dans Génie et folie de l'homme, à travers la structure même de notre cerveau. Le fait que le néocortex se soit développé d'une certaine façon tellement rapidement que, au lieu d'avoir un cerveau qui constitue un ensemble intégré, on a plutôt une superposition fragile du siège de nos instincts, le cerveau reptilien, du siège de nos émotions, le cerveau limbique, du siège de nos pensées, le néocortex, mais que si nous sommes capables d'analyser la structure de l'atome avec notre néocortex et du même coup d'inventer des armes nucléaires, nous continuons avec notre cerveau limbique à avoir des modes de comportement qui n'ont pas fondamentalement changé depuis Cro-Magnon. Non, évidemment, ce n'est pas la même chose d'avoir un gourdin ou une arme nucléaire. Et on comprend très bien qu'à ce moment-là, le rendez-vous de l'humanité avec elle-même devient absolument crucial. Et que si on ne travaille pas sur la question de la sagesse au même niveau que la question du savoir, eh bien, nous allons devant des risques tout à fait considérables. Et cette question de la sagesse, on la retrouve au cœur de ces mutations considérables qu'on peut exprimer à travers la formule du triple changement d'air, en jouant volontairement sur la sonorité du mot « air » en français, qui est le changement d'air « air », c'est-à-dire le défi écologique, et qui ouvre la question qu'allons-nous faire de notre planète, le changement d'air AIRE, c'est-à-dire le changement, le bouleversement du rapport au territoire, et c'est aussi bien l'émergence du territoire mondial que l'émergence de ces nouveaux territoires, que sont par exemple les territoires virtuels à travers les nouvelles technologies de communication. Et ce changement d'air-là, il vient bouleverser les racines et les repères. Donc c'est un bouleversement lui aussi considérable. Et puis le changement d'air, E accent grave RE, c'est-à-dire le changement d'époque historique, la sortie des révolutions industrielles et l'entrée dans les révolutions de l'information, et au-delà des révolutions de l'information et de l'intelligence, c'est déjà l'entrée dans la révolution du vivant. Et la révolution du vivant, elle est au fond comparable cette fois au changement du rapport entre paléolithique et néolithique. Parce que si le grand bouleversement du paléolithique et néolithique peut se caractériser par le passage d'un état de soumission au vivant naturel à une capacité de transformation du vivant naturel, dont l'agriculture était l'exemple le plus frappant, cette fois, c'est sur le terrain du vivant humain lui-même que les choses sont en train de se passer. Ce que les questions dites du clonage ne font apparaître que sous une forme finalement relativement limitée, c'est le problème gigantesque de la capacité qu'est en train d'acquérir l'humanité de se faire muter elle-même comme espèce, avec à la fois les potentialités positives que ça ouvre, notamment du côté des thérapies géniques, mais aussi du côté des régressions que ça peut rendre possible, et qui fait que si la question écologique débouche à terme sur la question qu'allons-nous faire de notre planète, la question de la révolution du vivant, elle débouche sur une question aussi vertigineuse, qu'allons-nous faire de notre espèce ? Et si vous associez à ces éléments-là une troisième question radicale et qui est liée aux mutations du travail, qui sont induites par la mutation informationnelle déjà et l'ensemble des conjonctions des autres mutations, depuis la mutation agricole jusqu'à la mutation de la révolution du vivant, de plus en plus nous serons confrontés, et là je vais rentrer plus particulièrement dans les questions du devenir même de nos économies, au fait que le travail au sens économique et statistique classique ne pourra plus être l'élément structurant, exclusif, en tout cas très dominant, du devenir de nos sociétés. Et que par rapport à la question qui reste déterminante, qui reste notre sésame social, qui pour l'essentiel se résume quand on crée une relation sociale à la question « que faites-vous dans la vie ?», la question qui sera de plus en plus centrale deviendra « que faisons-nous de notre vie ?» Et que ça sera à ce moment-là la question du métier, au sens fort du mot métier tel que le compagnonnage l'avait inventé à partir du XIIe siècle, c'est-à-dire la question de l'œuvre et du ministère mystérieux, puisque le mot métier, il a été construit à partir de deux mots latins, le ministère pour le service, ministerium, et mystère, le ministère mystérieux. C'est-à-dire le métier, il est sur l'axe qui est resté celui du sens du mot vocation, par exemple. Et il est sur l'axe du mot profession avant la réduction techniciste du mot profession. Mais professare, ça n'est possible que si on est habité par ce que l'on professe. Et donc profession, vocation et ministère mystérieux, donc métier, sont eux sur l'axe fondamental du que faisons-nous de notre vie. Et ont donc une vocation, c'est le cas de le dire, beaucoup plus forte et beaucoup plus radicale que l'autre trépied sur lequel on fonctionne habituellement et qu'on confond avec ce premier trépied, qui est le trépied du job, de l'emploi et du travail. Et quand on pose cette question-là, ça veut dire que, à côté de la question qu'allons-nous faire de notre planète, à côté de la question qu'allons-nous faire de notre espèce, la question qu'allons-nous faire de notre vie devient une question éminemment collective et pas simplement personnelle et individuelle. Donc quand on rassemble ces trois grandes vagues, évidemment, ce n'est pas très étonnant que nous soyons entrés dans une période de bouleversement historique absolument considérable. Et on comprend bien que si on cherche à traiter des problèmes qui résultent de cette conjonction avec des mesures et des visions qui sont de l'ordre de la gestion conjoncturelle et en plus sectorielle, du genre je traite un bout de la crise financière là, un bout de la crise sociale et un bout de la crise écologique là, dans le meilleur des cas, parce que ce qui s'est passé au cours de la dernière année, ça a été plutôt de la gestion de sauvetage par rapport à la crise financière marquée par de la fuite en avant et plutôt de la fuite en arrière sur les autres terrains tels que les enjeux écologiques et sociaux, évidemment, on n'est pas du tout à la hauteur des problèmes et on prépare, et l'histoire d'Haïti peut servir de référence particulièrement dramatique dans cette période. On prépare des répliques au sens sismique du terme de ces éléments qu'on n'aura pas véritablement pris en compte auparavant. Et c'est vrai en particulier sur le plan de la crise financière, où c'est là que la gestion dans l'urgence, mais en même temps la plus superficielle et la plus cloisonnée, s'est mise en place, et où nous voyons bien aujourd'hui que les modalités même de gestion dans l'urgence de la crise financière sont en train de nous préparer de nouvelles répliques sismiques, avec pour circonstance aggravante le fait que cette fois, c'est la faillite des États qui est à la clé dans les nouvelles répliques qui risquent d'apparaître. C'est-à-dire les filets de sécurité qui ont été mis en place ont aussi pour effet de refabriquer de nouvelles bulles spéculatives, parce qu'en traitant les symptômes sans traiter les causes, ben on va vers de nouvelles bulles spéculatives, mais avec cette fois des situations qui seront plus graves encore, puisque les modalités publiques ou via les banques centrales du traitement du problème, ben, elles ne pourront plus servir de la même façon la deuxième fois que la première. Alors, quand on rassemble tous ces éléments, puisque vous êtes au cœur de l'entreprise, on arrive à la question clé, qui est la question des transitions en période historique bouleversée. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, d'une part, que il faut évidemment mobiliser le maximum d'énergie et d'intelligence pour avoir des formes de transition les plus douces possibles et avoir plutôt des stratégies préventives que des stratégies curatives de réponse à des situations de bouleversement et de catastrophe quand elles se produisent, parce qu'on ne les a pas suffisamment anticipées. Mais il faut aussi, parce que de toute façon, on est déjà rentré dans ce cycle historique-là, être capable d'avoir une possibilité de gestion de crise majeure. Et ce qui se fait sur le plan des catastrophes naturelles, ce qui commence à se faire sur le plan des catastrophes technologiques majeures, nous devons aussi être capables de le penser sur le terrain des catastrophes humaines majeures. Comme ce qu'il faut faire en matière de stratégie de réponse à des catastrophes est au fond de même nature que ce qu'il faudrait faire en matière de gestion préventive de ces mêmes catastrophes, on retrouve la question fondamentale de la transition. Par exemple, on commence à parler de plus en plus de villes en transition, de territoires qui disent, écoutez, nous savons que nous avons des rendez-vous cruciaux. Alors en général, ça se passe plutôt sur des questions énergétiques et écologiques, par exemple l'anticipation du retournement du pic pétrolier. Donc commençons à nous organiser pour être capables de sortir de notre dépendance au pétrole, mais cette logique de la transition, elle peut s'appliquer à quantité d'autres aspects. La question même de la sobriété heureuse, c'est une question qui touche tous les aspects de la vie sociale, et on peut très bien imaginer des territoires en transition autour de la sobriété heureuse. Des approches telles que de nouveaux indicateurs de richesse, des monnaies complémentaires, etc., sont dans la boîte à outils des éléments importants des territoires en transition. Mais on peut aussi poser le problème en termes d'entreprise en transition, d'une économie en transition. Et c'est là que je veux revenir quelques minutes, et puis ensuite je vous propose qu'on rentre complètement dans l'échange, sur la vague numéro 2, qui était justement cette hypothèse empruntée à Max Weber du passage de l'économie du salut au salut par l'économie, et du fait qu'on peut aujourd'hui poser l'hypothèse que cette phase du salut par l'économie se trouve en quelque sorte épuisée, à la fois parce que les promesses du salut par l'économie n'ont pas été tenues, et que notamment l'idée d'un progrès qui serait tout à la fois économique, technique, social et à terme moral, non seulement ne s'est pas réalisée, mais Auschwitz et Hiroshima ont même montré qu'on pouvait assister à des régressions d'une très grande barbarie au cœur même de ces progrès économiques et technologiques. Donc à la fois, les promesses du salut par l'économie n'ont pas été tenues, alors même que la question du salut fait retour pour l'humanité, pour toutes les raisons que j'ai évoquées par ailleurs. Et à ce moment-là, c'est intéressant d'aller regarder justement ce qui s'était passé dans le précédent basculement, qui était celle de l'économie du salut. Parce que si la question du salut fait retour, d'une certaine façon, nous sommes confrontés, du point de vue économique, à la question: quelle est la nouvelle économie de demain qui est cohérente à la fois avec les exigences de soutenabilité, toute la question dite du développement durable, en tout cas d'un développement humain véritablement soutenable, mais aussi avec ces questions fondamentales de l'être qui sont au rendez-vous des trois vagues que j'évoquais. Quelle est l'économie de l'être? Quelle est l'économie au service du mieux-être qui pourrait caractériser des logiques de transition? Alors, ça, c'est intéressant parce que quand on regarde ce qui caractérisait l'économie du salut, on se rend compte que dans l'économie du salut se trouvent déjà inscrits les deux éléments structurants de la perspective économique, qui est le rapport de la comptabilité et de la monnaie. Et cette question, elle nous intéresse aujourd'hui parce que quand on évoque ce que classiquement dans le débat public on évoque sous le terme de la question des indicateurs de richesse, on évoque bien le fait que toute société, et en particulier tout ensemble économique, a besoin de repères pour savoir si la direction que l'on a prise est la bonne ou la mauvaise, et que ceci se voit à travers un ensemble d'indicateurs, et quand les indicateurs sont structurés, y compris structurés juridiquement, ça s'appelle un système comptable. Nos systèmes comptables actuels sont devenus très largement contre-productifs par rapport à toutes les questions que j'ai évoquées. Moi, j'ai plus particulièrement travaillé, quand j'étais à la Cour des comptes et quand j'ai fait cette mission sur notre approche de la richesse, sur les questions de comptabilité publique et de comptabilité nationale. Mais on retrouve, sous des formes différentes, la même question autour de la comptabilité générale et de la comptabilité d'entreprise. Et on sait que les normes comptables ont joué un rôle aggravant dans la crise financière. Mais quand vous prenez par exemple la comptabilité nationale, on a un système comptable qui a été construit après la Seconde Guerre mondiale avec l'objectif de la reconstruction organisée prioritairement autour de la reconstruction industrielle, et on a construit un système de chiffrage qui valorisait toutes les activités qui étaient sur le modèle industriel de production, et inversement, on a dévalorisé des activités qui ne correspondaient pas à ce modèle. L'un des exemples les plus frappants, c'est dans le secteur des pays, de la paysannerie, des métiers de pays au sens le plus large du terme, et qu'on a réduit uniquement à des métiers de la production agroalimentaire sur le modèle industriel. Après tout, quand on regardait l'ensemble des métiers de pays exprimés par les paysans, c'était aussi des métiers que l'on appellerait aujourd'hui d'aménagement du territoire, de préservation écologique, de lien social, de lien culturel. Il y avait tout ça dans les métiers au sens de ministère mystérieux remplis par les paysans. À partir du moment où on a concentré ce qu'on appelait richesse sur le modèle industriel, on a aussi construit des systèmes comptables qui faisaient qu'un paysan ne pouvait survivre que s'il devenait un agriculteur sur le mode industriel de production. C'est-à-dire l'activité de production agroalimentaire s'est faite, y compris au détriment des autres métiers. Alors c'est maintenant qu'on le voit. On voit par exemple les dégâts écologiques avec la pollution des nappes phréatiques, avec les conséquences dramatiques de la disparition des haies, etc. Mais tout ceci est aussi, pas seulement bien sûr, mais est aussi lié à un certain nombre de choix dans les systèmes comptables. Et ce que je dis sur le plan de l'agriculture, vous pouvez le voir dans le domaine des services, vous pouvez voir par exemple toutes les raisons qui ont conduit à considérer que des activités comme les activités domestiques n'étaient plus considérées comme des activités, que les personnes du coup qui les exerçaient, notamment les femmes, étaient considérées comme inactives et improductives. Ça aussi, ça a des conséquences majeures en termes de choix de société. Que des activités telles que les activités bénévoles, dès lors qu'elles n'expriment pas des flux monétaires, sont considérées comme inactives. Et vous avez des ensembles qui sont absolument cruciaux pour le traitement des défis qui sont devant nous, les défis sociaux, les défis écologiques, qui ne peuvent pas être traités si nous avons des systèmes d'indicateurs qui continuent à nous pousser dans la direction de formes de croissance insoutenables. C'est un peu comme si nous étions dans la posture d'un marin qui aurait décidé d'un changement de cap, qu'on l'appelle développement durable ou d'un autre terme, peu importe. Il y a un accord assez général de la communauté internationale sur la nécessité d'un changement de cap. Mais si votre système d'indicateurs, il est resté centré sur l'ancien cap, ben évidemment, il y a un vrai problème de navigation. Et d'une certaine façon, cette question des indicateurs, elle renvoie à ce qu'était la question de la comptabilité du salut à l'époque de l'économie du salut. Et dans la comptabilité du salut, vous aviez une question qui était absolument cruciale et qui était comment faire pour éviter la damnation éternelle. Puisque comme l'a montré le grand historien Jacques Le Goff, avant l'apparition du purgatoire qui s'élabore historiquement entre le XIe et le XIIe siècle, la représentation de l'au-delà était une représentation binaire. Donc vous aviez à la fois des sociétés qui croyaient dur comme fer à l'au-delà, où l'au-delà était structuré de façon binaire, enfer ou paradis, et où la grande question de l'ici-bas, qui en plus était une vie relativement brève, c'était comment on préparait l'au-delà et comment on évitait la damnation éternelle. Et le système d'indicateurs qui permettait de savoir où on en était par rapport à cette question cruciale, ben c'était justement la comptabilité du salut. Et dans la comptabilité du salut, ben vous aviez ce qu'on pourrait appeler les pertes-péchés, et vous aviez la colonne des bénéfices qu'il faut prendre au sens étymologique du terme, c'est-à-dire les bénéfices, benefatio, c'est faire le bien. C'est les bienfaits dans la comptabilité du salut. Et dans la gradation des péchés, vous avez quelque chose qui nous intéresse beaucoup à l'heure des conséquences de la démesure financière et de ce que Alan Greenspan avait appelé l'exubérance irrationnelle des marchés financiers, c'est le fait que le péché mortel le plus grave, celui qui vous envoyait vers la damnation sans aucune rémission, c'était pas le meurtre, c'était pas la luxure, c'était pas la gourmandise, c'était pas etc. Non, le péché de loin le plus grave, c'était les péchés commis par les usuriers à travers la pratique de l'intérêt composé, c'est-à-dire le fait que l'argent fasse des petits indépendamment de l'intervention humaine. Pourquoi c'était considéré comme le péché le plus grave? Parce que c'était le blasphème le plus attentatoire à Dieu lui-même, puisque c'était mettre l'argent au même niveau que Dieu. Seul Dieu travail dans le temps. Si l'argent est créateur dans le temps par lui-même, ça voulait dire qu'on mettait l'argent au même niveau que Dieu, donc c'était le blasphème suprême. Et Jacques Le Goff raconte très bien comment il y avait des règles assez précises, par exemple, pour un usurier, s'il voulait éviter la damnation, où il n'avait le droit de transmettre à sa famille que la part de revenus qui était considérée comme licite et qui correspondait à des services qu'il avait effectivement rendus. On dirait en termes modernes que la part de services qu'il avait rendus de type intermédiation financière, elle était considérée comme un revenu légitime, mais la part de gains qu'il avait acquis simplement par la mécanique de l'intérêt composé et la capacité de l'argent à faire des petits indépendamment des services rendus, cette part-là, il devait la rendre s'il voulait éviter la damnation. Et donc, on a, à travers les questions de l'économie du salut, une première piste qui nous intéresse et qui est la question de la comptabilité du salut retrouvée sous forme contemporaine à travers la question de quel type d'indicateur et de quel type de système comptable avons-nous besoin, à la fois pour éviter la sortie de route, pour éviter la perte de l'humanité par elle-même, et en même temps pour savoir si nous sommes en gros dans une direction positive qui est à la fois la direction d'un développement réellement soutenable et d'un développement qui est au service d'une qualité d'être de l'humanité plutôt que simplement une course à l'avoir. Et derrière les débats autour des nouveaux indicateurs de richesse, derrière le débat qui, ici même à Bruxelles, avait été l'objet du grand colloque du Parlement européen Beyond the GDP, au-delà du PIB, derrière les débats de la commission Stiglitz, c'est ces questions fondamentales. Ça n'est pas par hasard d'ailleurs que la commission Stiglitz, les deux messages importants, c'est à la fois on ne peut pas continuer avec nos indicateurs actuels parce qu'ils nous ont rendus aveugles, ils nous rendent aveugles sur l'insoutenabilité écologique et sociale de nos modèles d'organisation, mais aussi ils réintroduisent la question fondamentale du bien-être parce que cette question de l'être devient une question cruciale. Donc vous voyez, d'un côté, nous avons à apprendre de ce qu'était la question de la comptabilité du salut. Et nous avons à apprendre aussi du côté de la partie monétaire. Parce que qu'est-ce qui se passait du côté de la monnaie et qu'est-ce que c'était que la monnaie de salut ? Ben évidemment, là, on tombe sur la grande question des indulgences. Puisque les indulgences étaient la monnaie de salut. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où il y a eu marchandisation de la monnaie de salut et où la papauté, pour répondre à sa propre crise financière, s'est mise à marchandiser le rachat des péchés. Ben, vous avez eu l'une des plus grandes failles civilisationnelles sur laquelle on vit encore, au cœur du christianisme, et qui a été l'émergence du protestantisme comme refus de la marchandisation du salut. Mais avec un effet paradoxal, et là Max Weber l'avait bien montré dans Éthique protestante et Esprit du capitalisme, qu'en même temps qu'il s'opposait au scandale de la marchandisation du salut, le protestantisme a été aussi le vecteur par excellence du passage de l'économie du salut au salut par l'économie. Parce que l'économie, à condition d'être menée par des capitaines vertueux, devenait elle-même un indicateur de salut dès lors que la richesse devenait licite et que le bouleversement culturel qui faisait que la richesse monétaire qui était suspecte devenait un indicateur possible du salut, ce bouleversement-là a du coup des conséquences ambivalentes et aujourd'hui nous sommes à un rendez-vous qui est finalement très actuel quand on regarde les grands débats à l'échelle internationale, qui est la question de ce qu'on pourrait appeler les nouvelles indulgences. Parce que comme nous sommes dans un type de capitalisme financier où la dimension immatérielle est déterminante. Et dans la dimension immatérielle, la dimension symbolique est tout à fait fondamentale. Prenez une entreprise comme Coca-Cola, en termes de bilan, l'essentiel de la valeur marchande de Coca-Cola, elle est liée à son image de marque. Donc c'est vraiment de l'immatériel, du symbole, etc. Et par conséquent, la façon dont on préserve, dont on fait fructifier une image de marque, c'est un capital symbolique qui est déterminant dans l'existence même du capital financier. Pourquoi une entreprise comme Danone, on en parlait hier, on connaît bien tous les deux Emmanuel Faber et le rôle très important qu'il joue au sein de Danone, est quelqu'un qui a été amené à prendre un rôle de plus en plus important, ben, c'est aussi parce que le choc en retour du boycott de Danone il y a quelques années, qui sur le plan strictement économique n'avait évidemment qu'un effet infinitésimal de type coup d'épingle, mais a été reçu par Danone comme un choc symbolique absolument considérable. Le risque de dégradation de l'image de Danone était considéré comme un enjeu stratégique pour l'entreprise. Et par conséquent, l'enjeu du nouveau rachat des pêchers modernes sur le plan écologique, sur le plan éthique, sur le plan social, devient un enjeu absolument déterminant. Pourquoi la question de l'éthique? Pourquoi la question de l'entreprise citoyenne? Pourquoi la question du développement durable a-t-elle pris une telle importance? C'est aussi parce que les enjeux de ce capital symbolique, de sa préservation, de son entretien, de son développement, sont devenus des enjeux déterminant. Et là, vous avez deux voies possibles. Vous avez la voie légitime et qui est cohérente avec une logique d'économie en transition et d'entreprise en transition, c'est-à-dire qui prend au sérieux et la question du développement soutenable et la question de la réorientation autour des questions de l'être. Et à ce moment-là, le fait de dire ben, la preuve que nous commençons à bouger, c'est justement que, pas simplement dans notre communication, mais dans notre réorientation stratégique, nous prenons de plus en plus en compte ces éléments. Donc ça, c'est la partie positive du phénomène de la transition. Mais la partie négative sur laquelle il faut être parfaitement lucide, c'est ce qu'on pourrait appeler l'équivalent d'un nouveau trafic d'indulgence. C'est-à-dire, je rachète d'autant plus mes logiques de destruction écologique que je mets en œuvre du greenwashing et que je mène des campagnes de communication pour montrer à quel point je suis une entreprise verte. Je rachète d'autant plus les éléments de souffrance au travail, de stress, de suicide dans des entreprises, etc., que je mets en place des comités éthiques, que je développe toute une communication sur l'entreprise citoyenne, etc., etc. Donc, vous voyez, dans une logique en transition, on a un élément sur lequel il faut être à la fois exigeant et en même temps nuancé, parce que si on se met à diaboliser toute action, par exemple, de communication au motif que ce serait purement de la pub et du greenwashing, on passe à côté des forces de transformation qui existent bel et bien dans l'entreprise et on risque à ce moment-là de les marginaliser. Mais si inversement, on est simplement dans une espèce d'admiration béate sur la nouvelle philanthropie et sur le fait que tous les entrepreneurs deviennent potentiellement des Bill Gates, on passe à côté de cet enjeu bien réel qui est celui des nouveaux trafics d'indulgence. Et les trafics d'indulgence, ça ne vaut pas simplement pour les entreprises, ça vaut pour les États à travers, par exemple, les marchés de droits à polluer, à travers le ripollinage en termes de droits humains, alors même qu'ils pratiquent de plus en plus des politiques de ségrégation sociale ou même raciale. Mais le trafic d'indulgence, il vaut tout autant, par exemple, pour les églises. C'est-à-dire l'interpellation, ce qu'on pourrait appeler l'interpellation spirituelle des grands faits religieux, elle vaut tout autant que ce que je viens de dire à propos de l'économie proprement dite. C'est-à-dire chacun des grands acteurs est confronté à ces bouleversements et est amené à faire un travail sur lui-même pour être capable de dégager la part positive sur laquelle travailler dans une perspective de transition et pour être lucide sur la part régressive qui est en même temps présente. Et c'est sur ce point que je conclurai, c'est-à-dire qu'au cœur de tous les rendez-vous auxquels nous sommes confrontés, et c'est la raison pour laquelle le défi, il est pour la famille humaine dans son ensemble, la grande affaire, c'est de comprendre que la question de la barbarie n'est pas une question extérieure, mais une question intérieure. Là où classiquement le politique s'est construit dans l'histoire des sociétés par externalisation de la question de la barbarie, on pacifiait, on civilisait un ensemble, que ce soit une tribu, un État, une cité, un empire, parce que l'existence de l'adversaire, qu'il soit barbare, qu'il soit étranger, qu'il soit infidèle, permettait de créer de la communauté à l'intérieur. Mais ce modèle, par externalisation de la question de la barbarie, est évidemment un modèle inapplicable quand on raisonne à l'échelle de la mondialisation, à l'échelle planétaire. Quand on se pose la question du devenir de l'humanité, de l'autogouvernance de l'humanité, l'humanité n'est pas menacée pour l'essentiel de l'extérieur. Et en dehors de quelques chutes d'astéroïdes, ce n'est pas les extraterrestres, sauf sous forme fantasmatique, qui nous menacent. C'est bien les intraterrestres. L'humanité est bel et bien menacée, mais elle est menacée par elle-même, par sa propre part d'inhumanité. Et donc, à ce moment-là, la question de la barbarie se pose, mais comme étant une question intérieure. Et ça, c'est ce que le patrimoine des sagesses du monde nous dit depuis des siècles. Depuis des siècles et même depuis des millénaires, parce que c'est sur ce terrain-là que les traditions de sagesse et de spiritualité ont le plus travaillé. Mais simplement, ces questions-là, elles deviennent des questions éminemment collectives et sociétales. Et comment travaille-t-on sur l'ambivalence profonde de l'humanité, sur notre propre part de barbarie? Comment travaille-t-on sur l'altérité, c'est-à-dire le fait qu'autrui n'est pas d'abord une menace, mais peut être une chance? C'est aussi bien la question politique et démocratique par excellence que la question spirituelle et la nécessité d'un travail des traditions spirituelles et notamment du travail des traditions spirituelles religieuses pour elles aussi faire la part entre leur propre part d'inhumanité par rapport à leur part de lumière, leur propre part d'évangile au sens de bonne nouvelle par rapport à leur part de mauvaise nouvelle. Et dans le secteur qui est le vôtre, c'est le grand enjeu du côté des entreprises pour aller de plus en plus dans la direction et de la soutenabilité, question du développement durable, et de l'économie du mieux-être, en entendant fortement le mot « être » dans cette dimension. Alors on peut dire qu'il y a déjà des tas d'éléments qui vont dans ce sens, non seulement du point de vue du développement durable, mais quand vous prenez par exemple l'ensemble des acteurs économiques qui interviennent sur le champ du mieux-être, mine de rien, il est assez considérable. Et si on le prend au sérieux, et si on se dit, là, c'est pas simplement de la mode ou des nouvelles logiques de communication ou de commerce qui se mettent en place, c'est plus fondamentalement une évolution en profondeur qui fait que la réorientation même de la logique économique autour de la qualité d'être, aussi bien individuelle que sociétale, devient un enjeu absolument déterminant. Et dans une perspective d'économie en transition, d'entreprise en transition, la façon dont on prépare ces bouleversements, ces reconversions qui deviennent des conversions, au sens le plus radical du terme, deviennent des enjeux déterminants. Voilà. Du coup, j'ai été beaucoup plus long que ce que je voulais dire, mais comme vous ne m'avez pas arrêté, j'ai continué quand même.
Bon, il est 10h20. Avant qu'on fasse une pause, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on débroussaille un peu le type de questions qu'on peut avoir pour Patrick après son exposé. Si je peux me permettre, on peut en avoir sur effectivement la question 6. Tout le tableau qu'il a dressé est valide. Et l'autre de se dire, si on part d'une hypothèse que ces trois vagues sont réelles, que fait-on pour essayer de changer en tant que manager dans une entreprise, en tant que citoyen, et avec cette volonté de contribuer à quelque chose. Voilà, c'est un peu les deux grands axes que l'on peut avoir. Je pense peut-être qu'on peut faire rapidement un tour de table, entre guillemets, ou de pièces.
Peut-être, Laurent, ce qu'on peut suggérer aussi, c'est peut-être d'avoir, puisqu'on nous reste quand même pour 10 minutes, peut-être avant de faire une pause, c'est peut-être aussi, si certains ont des questions, sur quelque chose qui est très précis, peut-être une explication de choses. Et moi, j'en ai, donc avant d'y aller, il y a d'abord une notion que j'aurais voulu clarifier, c'était la notion des trois piliers. Vous avez dit qu'il y avait trois piliers, vocation, et puis je ne me rappelle plus les deux.
La vocation, les deux. Profession, métier.
Voilà, et puis job, emploi, travail.
Et job, emploi, travail, oui.
Revenir un tout petit peu là-dessus. Et puis la deuxième question qui me paraît intéressante, parce que vous avez parlé de la comptabilité, vous avez parlé de la valeur ajoutée, vous avez parlé de la richesse. Comment est-ce que nous, en tant que société, je sais que vous avez travaillé plutôt dans le public, nous, en tant que société, est-ce qu'on a, est-ce que vous voyez en vous une différence entre création de richesse, création de valeur et valeur ajoutée? Enfin, oui. Un peu ces notions-là qu'on mélange beaucoup dans les entreprises. On dit, OK, on est là pour créer de la richesse. On est là pour créer de la valeur ajoutée. Est-ce que c'est vraiment la même chose et qu'est-ce qu'on entend par là? C'est aussi, voilà.
D'autres questions techniques, entre guillemets, ou de précision par rapport au...
Il y avait une thématique que vous avez évoquée qui m'intéresserait beaucoup, si vous pouvez la développer un petit peu plus, c'est ce qui concerne les évolutions en termes d'intelligence. Mm-hmm. Ce que vous disiez sur le fait que l'intelligence émotionnelle et l'intelligence corporelle ont beaucoup moins évolué et d'une manière plus vaste, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'être humain ou en tant que groupe social pour développer ces formes d'intelligence.
Mm-hmm. Moi, j'aurais une question par rapport à la notion d'être. Est-ce que c'est quelque chose que vous opposez à la voix ou bien c'est un sens plus philosophique, plus ontologique? Et je voudrais savoir aussi par rapport à vous parler de la comptabilité, quelles sont vos positions sur l'idée de bras bandaires, de mettre la pollution à la comptabilité? Dans ce sens-là, par rapport
oui, à oui, oui, oui.
Et alors, une troisième question, par rapport à la gestion des contradictions de l'être humain, par rapport à l'hubris, dans ce changement, dans cette conversion, comment est-ce que vous voyez la gestion des côtés destructeurs que l'être humain peut avoir en lui? Comment gérer ces contradictions?
Par rapport à la question systémique, donc l'approche systémique et en même temps, je dirais, les voix que vous exprimez en bout d'intervention en disant travailler sur l'humain ou sur le mieux-être peut être une voie, et en même temps, dans une logique systémique, je dis quelle est la limite ou jusqu'où, enfin bon.
Question très, très, très pratique parce que on a 10 minutes. C'est comme vous voulez parce que il y a des questions sur lesquelles je peux répondre très rapidement et honnêtement, il y en a d'autres où, y compris d'ailleurs parce que je n'ai pas suffisamment mis en place les éléments d'articulation, ou par exemple sur la valeur, etc., où ça demande. Donc c'est.
Alors, on se donne de toute façon de faire un break dans 10 minutes, mais par contre, vous pouvez prendre quelques-unes maintenant.
Voilà, parce que c'est aussi ce qu'on peut faire. Hein. C'est-à-dire, à ce moment-là, je peux commencer par des questions à réponse plus rapide, et puis on fait la pause, et on redémarre ensuite l'échange par des questions qui nécessitent un traitement plus long. Alors, dans des choses qu'on peut dire à titre plus rapide, il y a par exemple dans les questions de comptabilité, les deux grands courants de réforme du côté des comptabilités nationales, mais je pense qu'on retrouvera des débats cohérents sur ce même terrain dans les débats sur la comptabilité générale, ils consistent notamment à retraiter les comptabilités nationales actuelles en allant soustraire un certain nombre d'activités dangereuses ou destructrices et qui sont aujourd'hui comptées positivement dans le produit intérieur brut parce que comme elles génèrent de la valeur ajoutée monétaire et que la comptabilité nationale ne s'intéresse pas à la nature des activités, elle s'intéresse simplement aux valeurs ajoutées qu'elles génèrent. Donc une valeur ajoutée qui est générée par un accident, une destruction, une catastrophe, etc. Il n'y a pas une colonne particulière dans la comptabilité nationale pour dire attention, cette valeur ajoutée-là, elle vient au départ d'une destruction ou d'une menace pour l'environnement ou pour la santé, etc. Donc dans les réformes, il y a deux grandes voies. Il y a les voies de nouveaux indicateurs qui permettent de relativiser l'approche de la comptabilité nationale et du PIB et de dire attention, il y a des dimensions fondamentales que vous ne prenez pas en compte et nous allons les mettre en évidence et y compris on va ensuite repérer les écarts entre les informations apportées par la comptabilité nationale et puis ces informations données par exemple par des indicateurs écologiques et sociaux. Hein, le petit graphique là que je vous montrais, ça appartient à cette famille-là. Et puis la deuxième grande famille, c'est d'aller réformer de l'intérieur le cadre des comptabilités nationales, et là ça correspond davantage à l'exemple que vous donniez, et de dire à l'intérieur de la comptabilité nationale, quand il y a à l'évidence des activités qui sont dangereuses ou destructrices, bien, on va les soustraire du compte global et on va inversement aller ajouter des activités qui jouent un rôle de contribution dans la richesse globale d'une collectivité et qui n'y apparaissent pas actuellement, et c'est le cas en particulier des activités domestiques et des activités associatives, puisque c'est les deux grandes familles identifiées comme ayant un rôle fondamental, parce qu'il suffit de raisonner par la négative, d'imaginer ce qui se passerait par exemple s'il y avait disparition des activités domestiques, ce qui est d'ailleurs à l'origine le vrai sens du mot économie, parce que oikos nomos, l'organisation de la maison, c'est ça, et domestique, c'est le même mot que oikos nomos, et en réalité, l'économie domestique, elle reste le soubassement structurant qui permet les autres étages de l'économie. Et on peut dire qu'il y a eu un véritable coup de force qui était à la fois sémantique et machiste, lorsque la bourgeoisie du XVIIIe siècle a décidé que la grande affaire, c'était les affaires, justement, après toute la période des temps révolutionnaires où le politique avait produit pas mal de dégâts, donc il y a eu une espèce de grand retour de la question des affaires, mais on aurait très bien pu choisir un autre terme qu'économie pour le caractériser. Mais à partir du moment où on choisissait le terme d'économie et la référence à ce qu'était l'invention de l'économie chez les Grecs, ça aurait conduit à accorder une importance déterminante au rôle des femmes qui, pour l'essentiel, étaient au cœur de l'économie comme activité domestique. Comme ça n'était évidemment pas la préoccupation de la bourgeoisie patriarcale, il fallait que la nouvelle économie disqualifie l'économie domestique. Et donc, on a appelé économie, pour l'essentiel, l'orconomie, c'est-à-dire des activités extérieures à la maison, et on a déclaré que les activités domestiques étaient des activités improductives mises en œuvre par des personnes inactives. Vous voyez, donc là, c'est un véritable coup de force sémantique qui s'exprime sur la comptabilité. Donc, dans les modalités de retraitement et de nouvelle comptabilité, la réintroduction des activités domestiques, la réintroduction d'activités associatives, ce que Putnam aux États-Unis appelle le capital social, la réintroduction liée aux sociétés de la connaissance d'activités telles que, par exemple, le capital éducatif global d'une nation sont réintroduites dans les systèmes comptables, avec en même temps les limites et les zones d'interrogation, de doute qui sont légitimes du côté aussi bien des additions que des soustractions. Mais l'intérêt aussi, c'est que du coup, la comptabilité redevient aussi objet de débat. On ne fait pas comme si c'était un ensemble complètement neutre et objectif qui vous tombait du ciel. Toute comptabilité, elle résulte implicitement d'un certain nombre de conventions et de choix. Et à ce moment-là, ben, on est bien obligé de remettre en circulation les informations sur ces conventions et ces choix pour justifier les nouvelles normes comptables. Voilà, donc ça c'est sur la question la comptabilité, dont les éléments de pollution font à ce moment-là partie plutôt des éléments de soustraction. Une autre question, je peux aller assez vite, c'est effectivement dans le rapport entre vocation, profession, métier, et puis de l'autre côté, job, travail, emploi, là aussi, comme souvent, revisiter les mots nous aide. De la même façon que c'est très important de se réapproprier les chiffres et de voir quelles sont les conventions qui existent derrière les chiffres et notamment derrière les normes comptables, revisiter les mots, se donner le droit de revisiter les mots est absolument essentiel. Et c'est vrai que des mots tels que travail comparé à métier, par exemple, nous disent des choses absolument essentiel et même au départ contradictoire, parce que le tripalium en bas latin, les trois pieux, c'était au mieux un système pour empêcher que les chevaux se débattent pendant qu'on les ferre, donc c'était quand même un système de contrainte, et c'était au pire un instrument de torture avec le tripal. Donc à l'origine, le travail au sens étymologique et même au sens historique du terme, puisque le travail dans la Grèce antique qui invente l'économie, le travail est la punition réservée aux esclaves. Hein. Les anciens prisonniers qui ont préféré garder la vie, mais au détriment de la perte de leur honneur, et qui étaient condamnés au travail. Donc dans cette acception-là, grecque puis latine, le travail, il est effectivement sur un trépied, mais qui est celui de la dépendance, de la pénibilité et de la nécessité. C'est-à-dire, c'est pour des raisons de nécessité, soit d'obligation extérieure comme dans l'esclavage, soit d'obligation intérieure par nécessité de survie, qu'il y a travail. Si on prenait le travail au sens historique et étymologique du terme, on dirait par exemple que des personnes qui dans la rue ou dans le métro sont en train de mendier, sont des travailleurs au sens étymologique du terme. C'est-à-dire, ils sont amenés, pour des raisons de nécessité de survie, à rentrer dans un rapport de dépendance à autrui et dans un rapport de pénibilité, parce que l'état d'humiliation dans lequel on se trouve, moi j'ai beaucoup travaillé avec des personnes SDF, etc., c'est une souffrance extrêmement forte. Ben, on peut dire que ces personnes-là sont des travailleurs au sens étymologique du terme. Et donc, l'une des difficultés, c'est que, notamment grâce aux luttes du mouvement syndical, le travail a été tellement humanisé qu'il est passé du stade de tripalium au stade de droit revendiqué, parce que progressivement, ce qu'on a mis dans le travail, c'est tout autre chose. C'était le droit à un revenu décent et à une protection sociale décente, et la possibilité d'être reconnu socialement et de construire l'estime de soi à travers cette reconnaissance sociale. Et on comprend bien que quand on parle, par exemple, de la valeur travail, c'est pas du tout la même chose de défendre la valeur travail au sens positif du terme, ou de la défendre au premier sens du terme. Et tant qu'on n'a pas levé cette ambiguïté, tant qu'on n'a pas, à minima, comme le fait André Gors, distingué le travail contraint du travail choisi, ben évidemment, on a par exemple un débat qui est complètement marqué par du malentendu et par du procès d'intention. Alors c'est la raison pour laquelle moi je suis assez partisan de parler de droit au métier, parce que justement là, le métier, il réintroduit pleinement les dimensions d'un sens pour la contribution auprès de la collectivité en tant que service, mais aussi d'un sens dans la construction même de la personne, qui est sur un registre beaucoup plus fondamental et qui effectivement est comparable à la question de la vocation. C'est-à-dire des chambres des métiers, au sens fort du terme, devraient être dans cette perspective des espaces où des personnes sont accompagnées pour se poser la question de leur choix de vie. Et on aura de plus en plus besoin de cette perspective, parce que si vous prenez les problèmes d'emploi à l'échelle planétaire, par exemple, la logique de l'emploi simplement par offre d'emploi par des entreprises et par logique d'employabilité par rapport à cette offre, elle est structurellement incapable de répondre à la question de l'ensemble des êtres humains. Quand on dit, pour reprendre une image désormais classique, que à eux seuls, le Brésil, la Chine et l'Inde, par exemple, pourraient être l'atelier du monde, la ferme du monde, le bureau du monde, et répondre en termes de biens et de services classiques à l'essentiel des demandes potentiel, ben, ça veut dire que les éléments de chômage de masse potentiel à l'échelle planétaire, si on raisonne simplement à partir de la logique emploi comme étant des offres d'entreprise, dont en plus la vocation sociale n'est pas directement l'emploi dans cette perspective, nous mènera de plus en plus à de véritables drames sociaux. Donc il y a un moment où il faut prendre le problème par l'autre bout. Et cet autre bout, c'est le bout des métiers, au sens où tout être humain est porteur à minima de ce qu'on pourrait appeler deux métiers matriciels, qui vont en générer des tas d'autres, qui est un métier qu'on pourrait qualifier de chargé de projet, c'est-à-dire chargé de projet de sa propre vie. Et la société a intérêt à ce que ce métier soit détecté et exercé dans de bonnes conditions, parce qu'une personne qui n'arrive pas à prendre en charge sa propre vie, non seulement elle se détruit elle-même, mais les dégâts collatéraux qu'elle fait autour d'elle finissent par coûter très cher à la société, en particulier en protection sociale, en délinquance, etc. Donc un métier de chargé de projet et un métier qu'on pourrait qualifier un métier de chargé de savoir. Les réseaux d'échange réciproques de savoir, qui est une initiative qui était née en France, mais qui est maintenant présente dans de nombreux pays, ont mis en évidence que tout être humain, y compris des êtres en situation extraordinairement défavorisée, sont toujours porteurs de savoir, de savoir-faire ou de savoir-être, et qu'à partir du moment où ces personnes qui croient ne rien savoir, parce que pour elles, la logique du savoir est une logique académiques, donc elles disent « moi je ne sais rien », etc. À partir du moment où on leur permet de découvrir les savoirs dont ils sont porteurs, dont ils sont porteuses, et qu'on les met en situation, en les accompagnant, de les transmettre, on les sort de logique de dépendance pour leur permettre de rentrer dans des logiques d'échange. Et dans toutes les situations, par exemple, des réseaux d'échange réciproque de savoir se sont mis en place, après, on avait des bénéfices collatéraux, même si ce n'était pas l'objectif premier, qui étaient aussi des personnes qui retrouvaient beaucoup plus facilement des éléments d'insertion sociale, parce que au lieu d'être identifiés par leur manque et par leur souffrance, qui est souvent le problème du travail social au sens classique du terme, ou avec la meilleure intention du monde, pour aider une personne, il faut l'identifier dans son manque. Et donc, pour continuer à bénéficier des aides sociales, par exemple, ben, il faut continuer à être du côté du manque, de la dépendance et de la souffrance, avec tout le cercle vicieux que ça entraîne. Là, on est dans une logique d'échange. C'est-à-dire, vous savez, et l'échange de savoir vous met en position de contributeur et pas simplement de demandeur. Eh bien, si vous partez de ces deux métiers de base, qui évidemment peuvent en générer des dizaines d'autres par leur caractère matriciel, la question du métier est une question par nature universelle. C'est-à-dire, il n'y a pas l'équivalent du seuil de chômage structurel où on va dire, ah ben, on ne peut pas descendre en dessous de X%, etc. Tout être humain est fondamentalement porteur de ses compétences à vivre, de ses métiers, et l'organisation sociale autour de ces métiers est l'enjeu éducatif comme préparation à la question des métiers en termes de choix de vie, redevient une question prioritaire, c'est-à-dire le exduquere, le conduire au dehors, c'est-à-dire élever un être humain à ses propres yeux, pour reprendre une belle expression de la philosophe Simone Weil, devient l'enjeu clé de l'éducation qu'il nous faut réhabiliter là où la formation, et la formation purement adaptatrice à de futurs jobs et à de futures technologies, réduit considérablement cette perspective. On a besoin de repenser de l'éducation préparatoire à des métiers au sens de droit au métier, au sens matriciel du terme tel que je viens de les évoquer. Et évidemment, derrière ça, ça veut dire repenser complètement la notion d'activité. Par exemple, des personnes qui sont dites inactives, la plupart des retraités par exemple, sont des personnes extraordinairement contributrices et actives dans la vie sociale. Quand on regarde la vie associative, quand on regarde le capital social d'une nation, le rôle des retraités qu'il faut mettre de plus en plus entre guillemets est un rôle extraordinairement contributeur. Et donc revisiter la notion même d'activité, ce qui entraîne aussi des bouleversements sur des dossiers tels que par exemple la question justement des retraites, parce que l'une des raisons pour lesquelles le dossier des retraites est complètement plombé, c'est la définition réductrice de l'activité. Parce que quand on dit, ben oui, mais on est désolé, mais on est bien obligé de constater avec les évolutions démographiques que le nombre des actifs par rapport aux inactifs est devenu complètement déséquilibré. Donc, conclusion, il faut revenir sur les acquis sociaux en matière de retraite parce qu'il y a une loi démographique. On oublie de dire que c'est parce qu'on a une définition parfaitement réductrice de l'activité. Par exemple, le passage du fait des études de l'entrée dans la vie dite active de 14 ans à plus de 20 ans, a des effets absolument considérables sur la marge d'inactivité globale d'une société. Et par ailleurs, on dit qu'on est dans une société de la connaissance. Alors on marche sur la tête. Je veux dire, dans une société de la connaissance, on devrait considérer que le fait qu'un nombre croissant de jeunes, par exemple, fasse des études supérieures, est plutôt une source de richesse pour une collectivité. Voilà, je ne rentre pas plus dans ce débat, mais derrière cette question du changement du rapport travail-métier, il y a toutes ces questions-là qui viennent se poser.